Théologie naturelle, Père Philippe, 20 mars 84, Saint-Joseph.
Après avoir vu la simplicité, le problème de la perfection en Dieu, le mystère de la perfection en Dieu, nous allons voir le bien. Alors comprenez tout de suite cette chose curieuse, parce qu'il y a quand même des petits points d'interrogation qu'il faut de temps en temps se poser. Regardez la manière dont saint Thomas annonce les attributs. Question 3, à propos de la simplicité. Donc, il faut examiner comment il n'est pas. C'est ça, le point de vue. Et puis ensuite, il nous dit, il faut examiner la simplicité de Dieu. Deuxièmement, sa perfection. Troisièmement, son infinité. Quatrièmement, son immutabilité. Cinquièmement, son unité. Quand vous regardez comment saint Thomas réalise la chose, après la perfection, le bien, ce n'est pas annoncé. Alors, posez-vous la question, pourquoi ? C'est toujours très important. Hein ? Le propre du sage, c'est d'ordonner. Quand saint Thomas annonce quelque chose, ordinairement, il le réalise comme il l'a annoncé. Ici, il y a quelque chose de spécial entre la perfection et l'infini de Dieu, le mystère de l'infinité de Dieu. Il y a le point de vue de la bonté. Et saint Thomas fait deux questions, le bien in communi et le bien par rapport à Dieu. Donc c'est un gros oubli. C'est un très gros oubli. Il faut se demander pourquoi il y a ça, parce que c'est sûrement pas inconscient. C'est quand même gros. Voilà ce qui est annoncé. Et voilà ce qui est réalisé. Pourquoi c'est pas annoncé ? Il faut essayer de comprendre. C'est un ordre de théologie scientifique à partir de la foi. Alors, cet ordre de théologie scientifique se sert de la sagesse philosophique. Dans la sagesse philosophique, qu'est-ce que nous découvrons ? Nous découvrons l'existence de Dieu, puis nous essayons de découvrir la manière dont Dieu existe. Et la manière dont Dieu existe, c'est de voir, premièrement, l'opposition qui existe par voie négative, puisqu'il s'agit par voie de causalité. Par voie de négation. Par voie de négation. Aussi bien de la théologie naturelle que de la théologie à partir de la foi. par voie de causalité, c'est donné, question 2. Par mode de négation, par mode de nuance. Alors, vous voyez, par mode de négation, mais ça ne visite pas, mais des nuances, la perfection. Peut se comprendre, ça. Par mode de négation, il faut d'abord opposer Dieu à la manière d'exister de toutes les réalités qui sont autour de nous. Alors, toutes les réalités qui sont autour de nous impliquent une composition. Donc, c'est la négation de toute composition. Voilà la simplicité. La négation de toute composition. Ce qui aboutit à la simplicité. La perfection. On comprend, vous pouvez essayer de comprendre l'ordre. Qu'est-ce qui qualifie en premier lieu la substance? C'est sa composition. La substance, c'est la première considération que nous faisons sur l'être. Donc il s'agit d'être premier. Donc il s'agit de savoir ce qu'il est substantiellement. Ce qu'il est substantiellement, c'est qu'il a un mode de simplicité. Ça qualifie la substance. Le point de vue de la perfection, nous avons vu, c'est le point de vue de la causalité efficiente. Un être est parfait dans la mesure où il est capable d'agir. Seul être qui est parfait agit et agit en assimilant. Donc, c'est le point de vue de la perfection, le point de vue de l'arthèse. Et substance et arthèse. On voit bien l'ordre qui existe au niveau proprement métaphysique. Dieu est être. La seule chose que nous atteignons de Dieu, en premier lieu, c'est qu'il existe comme être. Qu'est-ce qui qualifie premièrement l'être? C'est la substance. Qu'est-ce qui qualifie en second Dieu? En second Dieu, l'être, c'est la perfection. Donc c'est le point de vue de l'acte. C'est le point de vue de l'acte, c'est la perfection. Mais une des modalités de l'acte, c'est le bien. Donc, on voit le lien qui existe entre les deux. Perfection et le bien. Et que d'une certaine manière, le bien ne sera qu'une des modalités de la perfection. Très cru en théologie scientifique. Si j'étais au contraire en théologie mystique, le bien apparaîtrait comme la première chose que je regarde. En théologie scientifique, non. Nous allons voir ensuite l'infini, alors c'est très différent. L'infini, ce ne serait plus du tout. Je dirais là, c'est prenant la considération de l'être. L'infini, c'est par rapport à l'univers. Notre univers est fini. Donc, par mode de négation. On retrouve la considération par rapport à l'être, la considération par rapport à l'être en devenir, l'être physique. Oui. Et vous pouvez alors préciser de cette manière-là tous les autres attributs que saint Thomas nous donne. C'est intéressant à voir, du reste. Parce que vous avez le point de vue de l'infini, puis vous avez le point de vue de l'immutabilité de Dieu. Et puis simple, sans unité. Ici aussi, il y aura l'ajout de l'éternité. Il y a deux attributs qui ne sont pas annoncés, le bien et l'éternité. Il y en a cinq qui sont annoncés, et en réalité, il y a les deux qui ne sont pas annoncés, et qui font pourtant partie directement des attributs de Dieu. Il y en a encore un autre qui n'est pas vie, c'est l'existence du Dieu, la présence d'immensité. Dieu. Mais faites ce petit plan très simple. Ceci, c'est ce qui est annoncé au début de la question 3, dans le prologue. Simplicité, perfection, infini, immutabilité, unité. Qu'est-ce qui est réalisé de fait? simplicité, perfection, le bien, l'infini, la présence d'immensité, l'immutabilité, l'éternité, l'unité. Il y en a trois en plus. Si vous essayez de comprendre la structure de cette question, donc en prenant les différentes manières d'exister de Dieu, vous pouvez dire donc la négation, la voie d'évidence et l'unité, c'est pas talent, il y a substance, acte, un. Voilà les trois, les deux axes de la métaphysique. Et puis l'impropriété. Et ici, vous avez infinie mutabilité, c'est que l'être physique, il est fini, l'être physique, il est mobile. Parce qu'il est fini, il est dans un lieu. Parce qu'il est mobile, il est dans le temps. Vous avez donc bien toute la structure de ces premiers articles sur la modalité d'existence de Dieu. On se sert de la philosophie première, on se sert de la philosophie de la nature. L'être physique, l'être en devenir, il est fini, il est mobile. Il est dans un lieu, il est dans le temps. Et puis l'unité. Réfléchissez pour. C'est pour comprendre la structure de ces différents articles. C'est très bien de les voir successivement, il faut comprendre la structure. Et je crois qu'elle est assez visible. Quand on sait ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire la métaphysique d'une part, la philosophie de la nature d'autre part. L'être et le devenir. L'être et le devenir. Le devenir n'est pas immédiatement applicable à Dieu, mais il donne une modalité particulière. Alors c'est la modalité du fini, la modalité du lieu, tout corps est fini. Tout corps est dans un lieu, tout corps est mobile, tout corps est dans le temps. C'est mobile. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'autre dimension. Et donc, on peut dire que toute la structure de cette question des différentes modalités de l'existence de Dieu repose bien sur la manière dont saint Thomas utilise la philosophie première et la philosophie de la nature pour voir ce qu'elles peuvent nous dire de notre premier. En prenant permodum causalitatis, permodum negationis, permodum evidentiae. Vous pouvez réfléchir à ça. C'est intéressant, c'est très curieux. Et c'est très curieux de voir alors ce qui est second. Et ce qui est second devient, dans une théologie mystique, premier. Dans une théologie mystique, c'est bien évident, c'est le bien, Dieu est bon, Dieu seul est bon. C'est la présence d'immutabilité de Dieu, la présence d'immensité de Dieu qui devient quelque chose de très important. Et c'est l'éternité, la gloire de Dieu. Dans une théologie mystique, ces trois attributs qui sont mis en second lieu deviennent tout à fait premiers. La bonté, la présence, l'immensité de Dieu, la présence et l'immensité. Et la gloire c'est l'éternité. Essayons maintenant d'entrer dans cette question 5. Nous sommes en théologie et le théologien réfléchit sur ce que c'est que le bien. Donc c'est une réflexion théologique sur le bien en général. Vient ensuite la question du bien et tout d'abord du bien in communi. Intraduisible, hein, in communi, c'est-à-dire le bien en général, ça ne va pas du tout. le bien en général, oui, le général en bien, ça fait quelque chose de très particulier. N'est-ce pas? Ça ne va pas du tout, le bien en général. Bien, in communis, ça veut dire, au fond, dans la perspective de saint Thomas, le bien considéré comme bien. En réalité, c'est la ratio boni. Le bien in communis. C'est une expression que prend saint Thomas qui est assez curieuse. Je crois qu'elle existe déjà chez Albert le Grand. Et puis ensuite, le bien de bonitate dei. Donc, saint Thomas éprouve le besoin, quand il s'agit du bien, de faire une question séparée sur le bien en soi. Il ne l'a pas fait pour la simplicité, il ne l'a pas fait pour la perfection. Pourquoi le fait-il pour la bonté? Alors vous pouvez dire, parce que la simplicité et la perfection sont des manières d'exister sont plus faciles à comprendre, la bonté est sûrement quelque chose de plus difficile. Je crois que ça nous fait comprendre aussi l'attention très particulière de saint Thomas sur le bien. Quand on cherche quelle est l'originalité propre de saint Thomas comparativement à Aristote, question qu'on a beaucoup posée ces derniers temps, pour Gilson, pour Fabreau, pour le père Geiger, ils sont tous du même avis. La grande originalité de saint Thomas sur Aristote, c'est l'essai. Je pense que la grande originalité de saint Thomas sur Aristote, c'est la question du bien. Et non pas l'essai. Puisque saint Thomas définit toujours l'essai, actus et sandi. Donc il définit l'essai par l'acte. Or, la métaphysique de l'acte, elle est dans Aristote. Tandis qu'il n'y a pas de métaphysique du bien. Et ce qui est propre à saint Thomas, c'est de nous donner, d'une certaine manière, une connaissance métaphysique du bien. Et c'est ce que nous avons ici, au niveau critique, au niveau sagesse théologique. Et c'est quand même très important. C'est une chose très importante. N'oublions pas, parce que tout ça se tient, si on veut comprendre un peu cette question du bien. Parce que c'est sûrement quelque chose de très original. Vous voyez, les deux grandes originalités de saint Thomas, c'est le traité des passions et le traité du bien. Ça, historiquement, c'est très net. Et quand il s'agit du Christ, le traité du sacerdoce. Là, on touche quelque chose d'original à la pensée de saint Thomas, qui est tout à fait particulier. Alors, n'oublions pas, pour que nous voyons encore mieux, il s'agit de la ratio boni qu'on va traiter ici. Très difficile à bien dire, la ratio du bien. Ce qu'est le bien en soi, mais pas le bien en soi à la manière de Platon, mais la raison d'intelligibilité du bien. Alors tout de suite, ça nous fait comprendre ce que saint Thomas appelle les diverses rationnelles, je le dis en latin parce que c'est tellement difficile à traduire, les cinq rationnelles qui sont les transcendantes. Et ceci, saint Thomas le dit, dans le De Veritate, question 1, article 1. Il faut absolument avoir lu le De Veritate, question 1, article 1. C'est pas traduit. Alors que ceux qui sont forts en latin et l'amabilité, la bonté, la charité de le traduire pour ceux qui ont de la peine à lire simplement en latin. Parce que c'est une question très importante, cette question. C'est la question des transcendentaux. Or, là aussi, nous touchons une originalité de saint Thomas. Les cinq transcendentaux, vous devez les savoir par cœur, hein, mais plus les comprendre. Alors, les cinq transcendentaux, je vous les cite, je vous les nomme si vous voulez. Puis on comprendra ce que c'est que les transcendentaux ensuite. Res. Je vais dire en latin, ça va mieux. Aliquid. Bonum. Verum. Les transcendentaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est rationes, la raison d'intelligibilité. La raison d'intelligibilité de res, unum, aliquid, bonum, verum, ces raisons d'intelligibilité sont converties avec la ratio elvis. La raison d'être, la ratio elvis. Convertible, c'est-à-dire ont la même extension et la même compréhension. Alors je traduis res, ça vient d'Avicenne, c'est toujours intéressant de voir l'origine, ça vient d'Avicenne, c'est d'Aristote par Avicenne. Res, c'est la réalité. C'est la réalité. On dira chose, hein, mais ça ne va pas très bien. Réalité, je vais dire réalité. Et on dira même, en passant par Avicenne, que c'est l'essence. La raison de la réalité, la raison profonde de la réalité, c'est sa détermination. La raison profonde. Unum, c'est ce qui est indivisible, indivisé et indivisible. Un, l'un. Aliquid. Ce qui est divisé des autres, ce qui n'est pas les autres et qui est indivisé en soi. Le bien, c'est ce qui est capable d'attirer la volonté. Et le vrai, ce qui est capable de déterminer l'intelligence. Voilà les cinq transcendentaux. Saint Thomas les donne comme ça, sans chercher l'origine. Historiquement, c'est très curieux de voir, historiquement, Albert le Grand parlait des transcendentaux. Et il nous disait ceci. Res et unum, ça vient des philosophes. Volum et verum, ça vient des saints. Saint Augustin. Albert le Grand voyait les deux courants. Le courant d'Aristote, par Avicenne, et le courant de Saint Augustin, et sa bonne aventure. Alors, on avait deux transcendentaux philosophes qui venaient de la tradition philosophique et deux transcendentaux qui venaient de la tradition des saints, saint Augustin. Et Albert le Grand ne nomme pas Aliquid. Saint Thomas ajoute Aliquid, ne dit plus que les uns viennent des philosophes, les autres viennent des saints. Il rassemble ça dans les cinq transcendentaux. C'est là une synthèse tout à fait propre à saint Thomas. Alors, les transcendentaux, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les transcendentaux, je crois qu'il faut dire que c'est une perspective critique qui réfléchit sur les notions tout à fait premières qui font tous les autres. Et c'est pour ça qu'en dernier lieu, ça repose sur la ratio elvis, mais on dit que c'est convertible avec la ratio elvis, c'est-à-dire que ça a la même extension et la même compréhension. Chaque fois que vous pensez l'être, vous pensez res, vous pensez unum, vous pensez aliquid, vous pensez bonum, vous pensez verum. Mais en même temps, quand vous pensez unum, vous pensez l'être, mais vous explicitez quelque chose de nouveau. Oui, c'est l'implicite et l'explicite. Quand vous pensez bien, vous pensez l'être, mais vous explicitez le bien qui n'est pas dit dans l'être. Quand vous pensez vrai, vous pensez l'être, mais vous explicitez quelque chose d'autre. Donc, les transcendentaux pour saint Thomas, alors ça c'est très important de le comprendre, hein, à la différence du transcendantal kantien. Les transcendentaux chez saint Thomas regardent les notions fondamentales qui sont au-delà des catégories, des dix prédicaments. C'est le dépassement des catégories. C'est la connaissance qui, dépassant les catégories, atteint dans la réalité quelque chose de beaucoup plus fondamental. Nous sommes dans une perspective critique parce que nous sommes au niveau des rationes, donc de l'intelligibilité fondamentale de la réalité. Essayez, j'ai dit ça parce que je ne peux pas regarder cet article, le bien en soi, sans comprendre ce qui est sous-jacent à tout cela. Autrement, on ne voit pas du tout. Et c'est intéressant de voir ces cinq transcendants. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut apprendre. Il y a les dix prédicaments, vous devez commencer à les savoir, les dix prédicaments. Et les cinq transcendantaux. Vous pourriez faire une chanson là, un air de musique liturgique sur les dix catégories, les cinq transcendantaux, les sept dons du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Alors vous avez, et là, ça se termine très bien, n'est-ce pas? Alors nous allons maintenant voir, vient ensuite la question du bien. Et tout d'abord, le bien en général, in communi. Ensuite, du bien divin. Au sujet du premier, c'est-à-dire du bien in communi, six questions se présentent. Le bien et l'être sont-ils une même réalité? À supposer qu'il y ait entre eux une certaine différence, lequel est premier? Rationnellement. C'est une question très intéressante. Entre la ratio entis et la ratio boni, y a-t-il un ordre? Troisièmement, étant admis que l'être est premier, tout être est-il bon? À quel genre de cause se rattache la notion de bien? L'essence de bien consiste-t-elle dans le mode, l'espèce et l'ordre? En quoi consiste la division du bien en bien honnête, utile et délectable? C'est une question extrêmement intéressante. Elle est difficile parce qu'elle présuppose toute la métaphysique et c'est une question dans une perspective critique. Perspective critique du théologien. Ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Si on essaie vraiment de réfléchir là-dessus et de le comprendre, c'est très très fort. Vous voyez, c'est très curieux, hein, cette question qui arrive là, en théologie, considération sur Dieu, in communi. C'est-à-dire, c'est pas directement Dieu, c'est ce que le philosophe, grâce à sa métaphysique, peut nous dire sur le bien. Donc, d'une certaine manière, c'est une question qui est en dehors de la théologie et qui est intégrée dedans comme une pierre d'attente. Alors, je crois que c'est très important pour comprendre ce que c'est que la théologie scientifique de saint Thomas. Parce que toute cette question n'a rien directement d'éclairé par la foi. Elle peut se comprendre uniquement par l'expérience et la réflexion philosophique. Et saint Thomas éprouve le besoin de nous la donner avant d'avoir la question proprement théologique, la bonté divine. Mais il faut aiguiser ses couteaux avant de couper le gigot. C'est nécessaire. Il faut aiguiser ici ses concepts. Alors ça, c'est aiguiser ses concepts. On va préciser qu'est-ce que c'est que la ratio boni. la raison de bien. Alors, il faut d'abord se dire ce que c'est que la raison de bien. Pas commode. Hein. Qu'est-ce que c'est que le bien ? On parle toujours du bien. On dit que le chien est bon, le cheval est bon. Ah, oh, ce type-là, comme il est bon. Et ce cheval, comme il est bon. C'est pas la même bonté. Hein. Ce sont des bontés. C'est toujours être bon. Et pourtant, c'est chaque fois différent. La bonté du cheval n'est pas la même que la bonté de Pierre. Et la bonté de Pierre n'est pas la même que celle de Jules. Et la bonté de Jules n'est pas la même que celle de Joseph. Chacun a une bonté différente. Très curieuse. Et pourtant, c'est toujours la bonté. Vous éprouvez le besoin de dire « Dieu est bon ». Et quand vous dites que Dieu est bon, c'est révélé du reste. Hein. Ce n'est pas la bonté du cheval. Tout à fait différent. Ou de l'éléphant, si vous voulez. Parce que l'éléphant aussi est bon. Alors, on voit toutes les modalités de la bonté. Et toutes ces modalités de la bonté, je les rassemble. Et j'ai la ratio boni. Vous voyez, la ratio boni, c'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre. La ratio boni, là on est vraiment dans ce qu'il y a de plus profond dans la pensée de saint Thomas. La ratio boni, comment puis-je arriver à la ratio boni? J'y arrive par une espèce de réflexion sur toutes les expériences, les diverses expériences. Dieu est bon. Selon les traditions religieuses, Dieu est bon. Je sais à peu près ce que ça veut dire quand je dis que Dieu est bon. Ce cheval est bon, ou ce chat est bon, ce qui est plus rare. N'est-ce pas ? Alors, ce cheval est bon. La bonté du cheval. Le cheval. La bonté de Pierre ici. Pierre est bon. Et ainsi de suite. Vous avez chaque fois une expérience différente de la bonté. Ce sont des modalités particulières de la bonté. Et au-delà de ces modalités, vous saisissez le quelque chose de commun. Au-delà de la diversité de ces modes, le quelque chose de commun, la ratio boni. Et ça, vous êtes vraiment en présence d'une connaissance analogique, hein, ça ? C'est ça la connaissance analogique, hein. C'est de saisir les modes particuliers pour avoir l'expérience de la bonté du cheval. Quelqu'un qui est habitué à monter des chevaux, il dit « Ah, celui-là, il est bon pour y aller, prenez là. » Dès que ça, c'est une rosse, mais surtout pas. Il est beaucoup trop nerveux. C'est comme dans la communauté, tu vois. Il y a des gens bons. Et puis il y a des gens nerveux. Ne vous approchez pas, surtout à certaines heures de la journée. Il ne faut pas s'y approcher. Alors, il faut faire attention, faites un petit détour. Mais ne vous approchez pas. Parce qu'il est bon, mais pas de la même genre de bonté. Toute chose. Vous êtes tous bons. Mais vous n'êtes pas bons tous de la même manière. Et c'est pour ça que pour les uns, ils diront « Ah, celui-là, il est merveilleux. » L'autre. Puis l'autre dira juste l'inverse. « Oh, celui-là, il est merveilleux. » Ah oui, mais et l'autre, c'est un peu mollasse. Vous allez me dire ça. Tandis que là, il est bon, ça tient la route, c'est quelque chose de solide, c'est merveilleux, c'est ça. Voyez, il y a des gens qui aiment la bonté dure, il y a des gens qui aiment la bonté molle, comme les fruits. La bonté de la vaseline, ça dégrave. C'est quelque chose d'assez particulier. Et il y a la bonté du roc. Les Bretons, hein, ils savent ce que c'est, de bon, hein, faut pas se casser la tête dessus. Mais c'est bon, ça tient. Mais c'est quand même très curieux. Donc il y a des modalités différentes de la bonté. Et puis il y a quelque chose de commun. Le tikoinon, comme dit Aristote. Le tikoinon, le quelque chose de commun. Au-delà de toutes ces bontés, il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, c'est ce qu'on appelle la ratio boni. Donc la ratio boni, elle n'existe que dans votre intelligence, hein. Mais elle a un fondement dans la réalité. elle n'existe que dans l'intelligence. C'est l'intelligence qui rassemble toutes ces expériences et qui saisit à travers toutes ces expériences le tikkunen, le quelque chose de commun de toutes les bontés que vous avez expérimentées. Le quelque chose de commun de toutes les bontés que vous avez rassemblées. Et si vous en faites ça, c'est pas le genre. C'est pas le genre. C'est très différent. Le genre animal. Il n'y a pas de genre du bon. Il n'y a pas de bonté générique. C'est pour ça que c'est très gênant de dire le bonum in commune. Comme s'il y avait un bien commun générique. Non, il n'y a pas de bien commun générique. Mais il y a un bien dont on saisit la raison analogique fondamentale qui rassemble toutes ces diversités de bonté. C'est très très beau ça. C'est difficile à saisir, hein, c'est pas commode, mais c'est intéressant. Alors, première question, le bien diffère-t-il de l'être en réalité? Est-ce que l'être, la ratio boni et la ratio enti, sont-ils la même chose ou sont-ils deux choses différentes? Alors, saint Thomas commence par saint Augustin. Albert le Grand nous a dit que le bien était un transcendantal dans la tradition des saints, donc de saint Augustin. Dès qu'il s'agit du bien, on regarde tout de suite saint Augustin. Tout de suite. Parce que saint Augustin, il est bon. Il est très bon, saint Augustin. Mais on ne regarde pas, premièrement, Aristote. Aristote, il est dur. Tandis que saint Augustin, il est bon. Mais la bonté s'est introduite dans la philosophie par les théologiens, par les mystiques. Très curieux. Là, il y a un apport. Là, on pourrait dire philosophie chrétienne, vous voyez, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Saint Augustin écrit, pour autant que nous sommes bons. Et comme il est naïf, hein, saint Augustin. Ah, c'est la grande naïveté de saint Augustin. Dans la mesure, pour autant que nous sommes bons. Du fait même que vous existez, vous êtes bons. Pas besoin de chercher, vous êtes bons. Pour autant que nous sommes. Vous voyez, c'est une vision de théologien. Dieu qui est bon ne peut créer que des choses bonnes. Et donc tout être, du fait même qu'il est, il est bon. Vous voyez, si je pousse ça jusqu'au bout, hein, alors le mal, il n'existe pas. Hein, c'est vrai, si. S'il y a adéquation absolue entre bonté et être, tout ce qui existe, du fait même qu'il existe, il est bon. Et c'est vrai que pour saint Augustin, d'une certaine manière, le mal est du non-être. La matière est du non-être. Et elle est mal. Elle est mauvaise. Elle est source du mal. Donc, comprenons bien cette chose que dit saint Thomas ici. C'est saint Augustin. Alors, voici la manière dont saint Thomas va résumer ça. Quant à leur réalité, donc, ens et bonum, quant à leur réalité, le bien et l'être sont identiques. Bonum et ens sunt idem secundum rem. Alors, le secundum rem, ça je suis obligé ici, hein, on est obligé de faire un petit peu de précision du langage de saint Thomas. Là, c'est parce que c'est rude, hein, c'est vertical ce que nous voyons là. Hein. Tout à fait vertical, c'est quelque chose de très très rude. Saisir ce que c'est cette ratio bonis, ce que c'est cette ratio enitis, la raison d'être, la raison de bien. Eh bien, voici ce que dit saint Thomas. Donc, le bien et l'être sont identiques, secundum rem. Un terme technique pour saint Thomas, secundum rem. Alors, on traduit quant à leur réalité. Quant à leur réalité. Oui, on peut le traduire comme ça. Quant à leur existence, Quant à leur existence, ils sont identiques. Et j'aimerais presque mieux, c'est cundum rem, c'est quant à leur existence. Ils sont identiques. Et puis, sic patet, donc c'est tout à fait évident. Tout à fait évident pour saint Thomas. Parce que saint Thomas n'a rencontré que des êtres bons. Il était au Moyen-Âge, comme vous l'avez vu, hein. On rencontre des cornichons, ils sont beaucoup moins bons. Tu vois, et pourtant, ils existent. Mais ils ne sont pas bons. Ils existent. Tandis que Saint-Augustin a fait cette expérience merveilleuse. Tous les êtres qu'il a rencontrés, ils sont bons. Mais toute l'expérience Saint-Augustin, à la fin de sa vie, le grand-père, il dit tout est bon. Toutes les réalités, dans la mesure même où elles existent, elles sont bonnes. Selon leur réalité, et saint Thomas dit ça, petit-fils de saint Augustin, quant à leur réalité, le bien et l'aide sont identiques. Ils ne diffèrent que pour la raison. Cette différente, c'est pas tout à fait bien traduit, hein, mais ils diffèrent seulement secundum rationem, selon leur intelligibilité. Selon l'intelligence que vous en avez. Vous n'avez pas la même intelligence de l'être et du bien. Ce qui est évident de cette manière, la notion de bien consiste en ceci. Donc la ratio boni. La ratio boni, traduire la notion de bien, ça peut se faire, mais c'est difficile. La raison de bien, mais comment traduire l'intelligibilité fondamentale du bien. C'est ça que ça veut dire. L'intelligibilité fondamentale du bien. L'intelligibilité propre du bien. L'intelligibilité caractéristique du bien. C'est ça la ratio. La ratio boni consiste en ceci, que la chose qualifiée bonne s'offre comme désirable. La ratio boni consiste en cela, que ce soit quelque chose d'appétible. Une chose est dite bonne dans la mesure où elle suscite un désir. Et c'est pour ça que vous aimez tellement d'être désiré, parce que du fait même que vous êtes désiré, ça prouve que vous êtes bon. Vous avez suscité un désir. C'est aliquid appetibile. C'est quelque chose qui est appétible. Appetibile. Là encore, c'est une chose intraduisible. Quelque chose d'appétible, quelque chose qui suscite un désir, hein, quelque chose qui suscite un amour. Le bien, c'est ce qui suscite en nous un amour. C'est ce qui éveille en nous un amour. C'est ça le bien. Quand vous êtes en face du bien, il se déclenche quelque chose. Vous l'aimez. Vous êtes attiré. Donc, la raison de bien consiste en ceci, que la chose bonne est quelque chose de désirable. Aussi, le philosophe définit-il le bien. C'est pourquoi le philosophe, dans l'éthique, dit que le bien est ce que tous désirent. Alors, vous voyez bien, ce n'est pas une définition, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas traduire définition. C'est tout simplement une constatation. Le bien, c'est ce que tous désirent. Or, il est manifeste que chacun est appétible selon qu'il est parfait. Chacun suscite le désir, suscite l'amour dans la mesure où il est parfait. Car tous désirent leur perfection. Toutes les réalités désirent leur perfection. Or, en tant que chacun est parfait, autant il est en acte. Le parfait, c'est l'acte, ce qu'on avait dit tout à l'heure. En tant qu'il est parfait, il est en acte. D'où il est manifeste que, en tant qu'il est quelque chose de bon, dans la même mesure, il est être. En effet, l'essai, c'est l'actualité de toute réalité. D'où il est manifeste que le bien et l'être sont identiques selon la réalité, selon leur existence, et le bien dit la raison d'appétible que l'être ne dit pas. Ah, nous reviendrons là-dessus. Et ça, c'est très très beau. Vous voyez, c'est essayer de saisir comment il y a identité existentielle du bien et de la réalité. Et cependant, notre intelligence les distingue. Et le langage est là pour nous donner comme un signe que ce n'est pas la même chose de dire « ceci existe et ceci est bon ». Je vous donne une pomme. Elle existe. Est-ce qu'elle est bonne ? Elle existe. Est-ce qu'elle est bonne ? Vous ne dites autre chose que quand vous demandez si une pomme est bonne ou si elle existe. Donc dans le langage, exister et être bon, c'est deux choses différentes. Et ceci relève de cette capacité particulière que la réalité a d'éveiller en nous un désir. Et c'est le bien qui éveille en nous un désir. Cette question-là, ça, dans la mesure où vous avez le temps,